Alors, une présentation en deux parties. J'ai un petit peu beaucoup de matériel pour deux sujets, donc je vais aller relativement vite. Mais bon, il y aura la place pour des questions. Et puis, la présentation sera à disposition sur Internet. Et puis, bon, on pourra en imprimer des copies si vous le souhaitez. Hein. Alors, je commence juste avec une petite chose. Dans le document PDP de 2003, il est indiqué, comme Michel a expliqué, que c'était une zone très sensible du point de vue paysage. Alors, Le document indique que dans la pesée des intérêts, la production d'énergie de plus de 20 gigawattheures par an est donc d'importance nationale est un argument essentiel. Parce qu'en dessous, il n'y a pas cette sorte de priorité. Hein. Donc, c'est indispensable de l'atteindre. Et puis alors, en plus, pour un parc de cette importance, cet aspect doit être pris en compte des projets permettant d'augmenter la valeur naturelle et paysagère doivent être réalisés dans les communes touchées. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut prendre comme mesure paysagère quand il y a des machins de 150 mètres de haut, 120 mètres de large et puis qui tournent. Ça ne me paraît pas possible. Bon, donc on voit bien que c'est un petit peu sur la corde raide. Hein. Alors, le danger qu'il va y avoir, c'est que j'ai regardé la carte des vents publiée par Météo-Test, qui a fait ça sur mandat de la Confédération. La moyenne du site donne une valeur de 25 mètres par seconde, ce qui donne avec 6 machines 25 gigawatts, donc ça c'est OK, mais à supposer qu'il y en ait une qui ne puisse pas être installée dans les zones prévues pour des raisons de sol, d'hydrologie, j'en sais rien, on tombe déjà à 20. Et puis, la carte, elle n'est pas ultra précise. Si la valeur moyenne du vent mesurée devait être plus basse, là, 10% en dessous, il ne reste plus que 18 gigawatts ou 15 gigawatts. Bon, donc, ça serait très dangereux pour le projet. Alors ça, il faudra faire très attention. Il y aura une étude de vent sérieuse qui devra être faite avec des mesures. Et puis, ça, on l'a vu à plusieurs fois, il y a tendance à la tricherie. Avec les mesures, pour arriver aux limites. Hein. Donc ça, il vous faudra être très attentif, vous battre pour obtenir les rapports de mesures, et puis les éplucher. Hein. Parce que sinon, on se fait avoir. Voilà, alors les impacts. Alors je commence avec les impacts sur le terrain. Donc ça, c'est l'image que Michel a déjà montrée. Alors, il y a un premier petit détail qui chatouille là, du point de vue de l'efficacité, c'est que ces machines sont très entassées, là. Vous voyez, les machines E4, E5, E5, E6, elles sont entre 250 et 300 mètres entre elles. C'est de loin pas assez, parce qu'une machine, l'énergie qu'elle produit, c'est en absorbant l'énergie cinétique du vent. Donc derrière, l'air est ralenti fortement. Alors ça fait des turbulences avec l'air voisin qui n'a pas touché, et ces turbulences vont taper dans les machines voisines, bon, qui ont une efficacité plus basse. C'est ce qu'on appelle l'effet de parc. Bon. Donc ça, dans le calcul que j'ai fait, il est compté, mais pas nécessairement avec l'importance qu'il aura ici. Parce que pour des machines de la taille prévue, 150 mètres de haut, 120 mètres de diamètre, il faudrait 500 mètres entre les machines au minimum. Hein. Et puis là, on voit que E5, E6, c'est dans l'axe du vent. Donc la machine E6, elle aura un pauvre vent très affaibli. Hein. Voilà. Donc ça aussi, les simulations doivent en tenir compte. Et ça devrait être regardé de près. Hein. Voilà. Alors maintenant, je passe aux impacts sur le terrain à proprement parler. Je pense que ce n'est pas dit dans le document, mais je suppose que les machines vont monter depuis l'eau sur le plateau, et puis après cheminer à travers le site. Alors, le transport, il faut bien comprendre, ce n'est pas des petits camions. Hein. La nacelle, donc où il y a la partie électrique, et puis où on vient accrocher les pales, ça pèse 130 tonnes. Hein. Donc un petit chemin de forêt, ça ne fait pas l'affaire. Hein. Bon. Et en plus, vous savez comment on fait, le terrain en pente, on creuse un chemin, on casse un petit bout, et puis avec ça, on fait le remblai. Et puis ça donne de la largeur, et puis on peut passer. Mais pas avec 130 tonnes. Hein. Donc là, il faut une excavation complète pour faire la largeur du chemin de passage. Bon, donc ça veut dire, là on le voit à droite, il faut faire une échancrure de 5 mètres de large et puis bon, 1,50 m de hauteur à peu près. Et puis de chaque côté, parce que les objets sont gros, là aussi bien la nacelle que les pales à leur extrémité, ça fait à peu près 10 mètres de large et il faut que ça passe. Quand il y a des virages, ben, ça s'approche des bords. Hein. Et puis s'il faut enlever un sapin, eh ben, il a des branches, le sapin, donc il faut aller assez loin. Donc en fait, il faut faire pas une tranche de la forêt, oui c'est ça, il faut abattre tous les arbres, hein, un terrain à nu sur à peu près 20 mètres de large. Hein. Voilà, donc ça sur toute la montée. Et puis où il y a des épingles à cheveux, eh ben, il va falloir faire creuser un bout de chemin, pour aller comme ça, pour repartir dans l'autre sens, parce qu'il est hors de question de prendre le virage avec des camions qui font des remorques qui font 30 mètres de long. Hein. Voilà. Ensuite, impact sur le terrain. Alors, la zone défrichée, elle doit être d'à peu près 70 mètres par 76 mètres. Et la zone en rouge, là, c'est un défrichage permanent, parce qu'il doit... Il faut pouvoir venir avec des camions, on peut faire de la maintenance, changer une pale, parce que de temps en temps, la foudre en détruit une, etc., des choses comme ça. Et puis, à un bout, il y aura un diamètre de 20 mètres, où il y aura le trou pour insérer le béton avec le ferraillage. Ça fait à peu près 20 mètres de diamètre de dégager. La galette de béton ferraillé est un peu plus petite, je crois, elle fait 10 mètres, 12 mètres, quelque chose comme ça. Hein. Profondeur de 4 mètres. Là aussi, pour la zone du point 1, le terrain est en pente. Bon, donc là aussi, il va falloir creuser rectangulaire, comme ça. Donc la zone fait 70 mètres de long, et puis il faudra creuser 12 mètres de profondeur. Hein. Donc même pour la zone non permanente, c'est plus de la belle nature comme vous en avez là-haut. C'est un bout de terrain plat, et puis quand on dit renaturer à ces altitudes-là, c'est très relatif. Hein. Si vous êtes allé vous promener au Mont-Crozet, j'en sais rien, moi je suis allé voir à Saint-Bray, c'est 10 ou 12 ans après la construction, dans le carré indiqué là, eh ben, la végétation, elle n'a pas vraiment repoussé. Il y a des petits trucs, des espèces de petites feuilles, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est pas très beau. Et puis pour le chemin d'accès, la même chose. Hein. Voilà, alors l'impact sur le terrain. Donc j'ai compté la route depuis l'entrée de la forêt, en dessous de nos, avec la largeur de 20 mètres, les élargissements sur le plateau pour aller jusqu'aux machines qui ne sont pas en bord de route. Il y en a deux qui sont en bord de route, mais pas les quatre autres. Alors ça fait 32 hectares pour les chemins, 24 hectares pour les cheminements locaux, et puis les quatre emplacements, là il y a encore 26 hectares à ajouter. Ça fait 82 hectares qui doivent être défrichés. Donc ça fait, vous voyez, si en Suisse on construisait 1000 éoliennes, ça fait 820 mètres carrés. C'est à peu près 5% de la surface verte suisse, hein, non bâtie. Hein. Les Alpes, il y a du caillou, mais on ne peut pas y mettre d'éoliennes, parce qu'il y a les pentes, il y a la neige, il n'y a pas beaucoup de vent, etc. etc. Hein. Donc, comme je vous disais, une moitié renaturée, puis le reste sans réelle végétation. Je ne sais pas quel plaisir il va rester pour la randonnée sur le plateau après. Hein. Surtout qu'il y a des machines qui tournent et qui font du bruit. Ce n'est pas bien beau à regarder. Là, je passe aux nuisances sonores. Bon, là, j'en ai écrit beaucoup, mais je ne peux pas être très précis. Parce que les simulations de vent, de propagation de son, c'est facile quand le terrain est plat. Mais là, dans un terrain aussi accidenté, c'est beaucoup plus difficile. Dans les zones où les machines sont en haut, puis les villages en bas, le son, il part en gros à l'horizontale, mais enfin avec un éventail large. Mais comme la vitesse du vent est plus élevée en haut qu'en bas, il y a un effet de courbure, le son descend. Hein. Maintenant, ça dépend encore de la température, quand il fait froid en bas et chaud en haut, ça aggrave encore l'effet. En temps normal, c'est l'inverse, la température diminue avec l'altitude, l'air reprend la densité, et puis, bon, etc. Voilà, donc c'est très difficile à faire, il faut des bonnes mesures météorologiques, il faut des simulations très bien faites. Hein. Il y a une complication là, c'est que derrière, il y a le flanc de chasseral. Donc, surtout du côté des vents dominants, il y a le son direct qui va partir vers l'avant, et puis il y a celui qui va contre le flanc de chasseral, il va être réfléchi. Il est un peu atténué, bien sûr, mais il y a un effet, un peu de focalisation qui va se produire. Et ça, ça prolonge, ça, disons, ça élargit la zone où on est à l'intérieur des limites, de dépassement de limites des niveaux sonores. Et ça peut aller loin. Auprès d'Orvin, au pire, il pourrait être touché, alors que c'est, les prés d'Orvin sont à, bon, entre 3700 et 5000 mètres. Hein. Mais là, en zone de sensibilité 3, ça va entre 1000 et 2000 mètres, mais en DS2, c'est entre 1400 et 4000. Je ne sais pas s'il y a des zones en zone de sensibilité 2 dans la région. J'en sais rien. Ça dépend des communes. Il y a des, j'ai pas eu le temps de regarder cette chose-là. Hein. Voilà. Donc ça, c'est de nouveau, j'ai pas de certitude, hein, je l'ai écrit. C'est des choses qui devront être simulées de façon soigneuse, et c'est jamais fait. C'est jamais fait comme ça. Bon. Donc, voilà. Alors maintenant, ça c'est pour faire la transition. La semaine dernière, il y avait l'Assemblée Générale, la Banque Nationale Suisse et l'Alliance Climatique. Est pas contente des placements, enfin des investissements de la Banque Nationale. Alors, ils ont manifesté à Berne, et puis ils ont affiché cette banderole ici. Bon, alors j'espère que ProNatura, WWF, Greenpeace, qui font partie de l'Alliance Climatique, se souviendront de ce qu'ils ont montré à Berne. Bon. Curieusement, parmi les membres de l'Alliance Climatique, il y a Suisse Éole. On se demande bien ce qu'ils font là, parce que pour déforester, ce n'est pas vraiment très, très bon pour l'environnement. Hein. Voilà, ça c'est un petit peu pour rigoler. Alors maintenant, l'utilité. Alors, bon, les choses ont basculé en 2017, à l'époque où on a voté une nouvelle loi sur l'énergie, où il y a eu une décision d'arrêter le nucléaire qui tenait sur deux articles, un peu vite évacué. Et puis, ce serait remplacé par du photovoltaïque et de l'éolien, pour l'essentiel. Mais comme on n'y arrive pas vraiment, ça ne suffit pas, le reste serait fait avec des économies d'électricité. Donc, la consommation de 60 TWh qu'on avait à cette époque-là, qui a un petit peu augmenté maintenant, elle aurait dû descendre en 2050 de 20%. Donc, le climat a été oublié, parce qu'on arrête le nucléaire, hein, et puis on ne sait pas par quoi on le remplace. Les économies d'électricité, c'était farfelu, parce que la population n'arrête pas d'augmenter, d'abord. Et puis deuxièmement, il va falloir remplacer tout le fossile par de l'électricité. Voiture électrique, pompe à chaleur, etc., etc. Alors, la consommation d'énergie, maintenant, on sait qu'elle va monter à peu près entre 100 et 110 TWh. Donc, pas tout à fait le double de ce qu'on a maintenant. Bon, ça, c'est des chiffres qui sont très flottants. Hein. C'est un peu des estimations, il y a plusieurs façons de calculer, et puis la Confédération n'a pas franchement arrêté un chiffre. Parce que c'est très difficile à dire comment on va le faire maintenant. Disons, aujourd'hui, avec les lois comme elles sont, on ne peut pas. Donc, il va falloir changer les choses. Voilà. Alors maintenant, si on regarde la manière de produire l'électricité, à gauche, c'est ce qu'on fait maintenant, l'hydroélectrique, du nucléaire, du photovoltaïque, qui commence à prendre de la place, puis l'éolien, qui est une toute petite barre, là c'est juste un épaississement de traits, et puis le reste, la dernière case du haut, c'est de la production thermique, incinération d'ordures, et puis, puis biogaz pour faire de l'électricité. Hein. Voilà, et puis 2050, c'est à droite. Il n'y a plus de nucléaire, en principe, hydroélectrique, ça monte à 40 TWh, et puis il y a un chiffre de 50 TWh de photovoltaïque, bon, qui est avancé par Suisse Solar, par Roger Nordmann, Il y aura assez, il y aurait assez de toits en Suisse, mais bon, je ne sais pas si on ira jusqu'à en mettre sur les toits du Palais fédéral pour avoir le compte. Hein. J'ai des doutes. Voilà. Et puis l'éolien, pour le moment, on en est à 2 TWh à peu près. C'est, là aussi, ce n'est pas un chiffre très fixé. Ça peut être plus, évidemment. Ça pourrait être plus. Mais pour le moment, ce n'est pas beaucoup plus que ça. Hein. Donc on voit que ce n'est pas dominant, ce n'est pas essentiel. Même si c'était 5 fois plus gros, ça ne ferait jamais que 10. C'est pas avec ça qu'on va y arriver, hein. Voilà. Alors maintenant, les milieux éoliens, Suisse Énergie, Suisse Éole aiment bien dire qu'on produit plus d'éolien en hiver qu'en été et que ça compense le manque de soleil pour le photovoltaïque. Bon, alors, si on regarde les chiffres, c'est pas 2/3 à 1/3 comme il est prétendu. Là, j'ai regardé les productions françaises, allemandes et suisses, et on est plutôt 60% en hiver, 40% en été. Bon. Donc le supplément hivernal, c'est ça qui est important, c'est 20% seulement. Hein. Donc si on produit 2 TWh, le supplément hivernal, c'est 0,4 TWh. C'est pas grand-chose. Si on en produit 20 TWh, ce qui est certainement inatteignable, le supplément hivernal, c'est 4 TWh. Mais ça, 20 TWh, ça demande 3800 machines. Hein? Alors, sur 20 000 km² de terrain de plaine, de Jura, enfin, etc., donc des terrains verts, en gros, ça ferait une machine tous les 5 km². Donc, ça fait des carrés 2200 mètres. Là. Puis à chaque fois, il y aurait une machine plantée. Bon, on les regroupe en paquets, bien entendu, mais on voit bien qu'il y en aura partout. C'est impensable. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser attraper par l'argument de l'importance fondamentale de l'éolien. Ce n'est pas le cas. Hein. Voilà. Ça, c'est la variabilité de la production. J'ai pris la courbe française parce qu'il y a peu de machines en Suisse maintenant, c'est pas très significatif. Elle est encore plus secouée que ça, la production, la variation journalière. Mais la France, il commence à en avoir un peu sur tout le territoire. Donc, la théorie était que ça se moyennait, hein, qu'il y avait, le vent est différent partout. Donc, ça devait s'égaliser. On voit que c'est pas le cas du tout, hein. La valeur 1, c'est la production totale sur tout le territoire. Et puis la ligne rouge, c'est le facteur de charge, donc la production moyenne ramenée au maximum possible. C'est 25%. Hein. Alors on voit bien qu'on est, 40% du temps en dessous de ça. Et puis le gros de la production est fait dans des grosses pointes. Et on voit que là, en 2023, qui est une année exceptionnelle, en début d'année, il y avait beaucoup de vent au mois de janvier, mais depuis mi-janvier jusqu'à février, c'est très bas, c'est comme en été. Donc là, pendant 6 semaines, il n'y a pas eu de supplément hivernal, du tout. Hein. Alors ça, il faut le gérer, et puis bon, ben, quand c'est pas là, c'est pas là. Hein. Si on avait une grosse quantité, et puis qu'elle n'est pas là, eh ben, elle sera difficile à compenser. Hein. Voilà. Alors, reste la question de quoi faire. Alors, il y a une très bonne publication qui a été faite par le professeur Zutel, de l'École Polytechnique Fédérale et de l'EMPA. À quelques-uns, ils ont fait un travail qui a inventorié toutes les solutions. Ça va de l'hydraulique, nucléaire, hydroélectrique, éolien, PV, et puis des carburants synthétiques fabriqués à partir de matières végétales, terrestre, disons, enfin, de choses qui ont poussé. Voilà. Alors, il donne pas de scénario précis, mais il mentionne des possibilités. Là, j'ai fait une petite combinaison de mots en cru pour simplifier. Il y aurait en plus donc de l'hydroélectrique, il y aurait une combinaison photovoltaïque, batterie locale, hydroélectricité, qui donne de l'électricité à 24 centimes dans leur scénario, le nucléaire 8 centimes, et puis la meilleure solution à partir de masse végétale, c'est une production qui serait faite à l'étranger. C'est un projet qui étudie au niveau international. Je ne sais pas à quelle vitesse ça marche. Alors l'idée, c'est de faire pousser de l'huile de palme dans des régions présentement infertiles par manque d'eau. Bon. Donc il faudrait amener de l'eau en grande quantité, irriguer des régions comme ça. Ça servirait pour l'agriculture locale. Et puis, une partie servirait pour faire de l'huile de palme, qui donne un bon carburant. Et puis, ça ne coûte pas trop cher, parce que ça peut se transporter dans les pipelines existants actuels. On remplace le pétrole par l'huile de palme. Et ça fait une électricité à 35 centimes. C'est un peu cher, mais ça, c'est très souple. On peut ne la faire marcher qu'en hiver, quand il y a du manque, par exemple. Et puis, elle pourrait servir pour faire du chauffage. Donc là, on n'aurait pas toutes les pertes thermiques, parce que quand on brûle quelque chose dans une chaudière, pratiquement 100% de l'électricité, de la chaleur sert à chauffer. Bon. Donc, voilà. Donc, on voit qu'il y a des alternatives, mais il faut une volonté politique forte qui, présentement, n'existe pas. Bon, à mon avis, le débat commence maintenant. On arrive au pied du mur, les autorités vont devoir se réveiller un petit peu, hein. Voilà, donc je dirais, on a des alternatives. Donc on ne peut pas nous dire, il n'y a pas d'autre solution. Hein? Voilà. Donc, je dirais qu'en conclusion, on a un petit pays densément peuplé. Ça, Michel et M. Chopard l'ont déjà dit. Les Alpes, c'est trop accidenté, trop haut, trop enneigé pour héberger beaucoup d'éoliennes. Le peu de parcs qui y sont, ils ont des facteurs de charge qui sont médiocres, l'ordre de 10%, voire moins. Bon. Alors, la production raisonnablement possible, elle est faible. Bon, c'est une contribution marginale, même en hiver. Alors, je dirais qu'il y a de bonnes raisons de s'y opposer sans être égoïste. Parce que disons, l'argument qu'on va vous opposer, c'est que vous êtes des égoïstes. Vous en voulez bien, mais chez les autres. Hein? C'est le slogan qu'on entend sans arrêt. C'est pas le cas. Il y a de bonnes raisons, indépendantes des raisons locales. Mais en plus, quand il y a un paysage de haute valeur, comme Michel l'a expliqué, il y a encore plus de raisons de s'opposer à votre projet. Voilà.
Merci beaucoup.